France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Où en est le désir d'Europe? Posé autrement, peut-être avec un peu plus de lucidité, la question pourrait être de quelle illusion, de quel fantôme l'Europe est-elle encore le nom et comment dealons-nous avec ce qu'il en reste, ce qui reste des grands idéaux, mais pas seulement ceux de Paul Valéry, d'André Gide ou de Stefan Zweig. La question se pose aussi avec ce qui reste de politique européenne à l'heure du Brexit. Où est passée l'âme érasmienne de l'Europe et qu'en pense Boris Johnson? Voilà quelques-unes des questions qu'on va se poser ce matin en compagnie du philosophe et écrivain Régis Debray. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. D'abord, quand même, Régis Debray, avant de parler d'Europe et de Paul Valéry à qui vous consacrez un ouvrage, un mot sur la catastrophe en cours qui nous concerne ici et maintenant et qui concerne en même temps toute l'humanité et sur la guerre peut-être que nous allons devoir faire. Vous constatez comme moi ce matin qu'il fait à peu près 27-28 degrés au lever du jour à Paris. Nous allons battre plusieurs records de température dans le nord de la France aujourd'hui. Le monde entier vit ses heures les plus chaudes, les forêts meurent. Dans le Roussillon, on apprend ce matin que les nappes phréatiques profondes à certains endroits affichent un niveau si bas que l'eau de mer risque de s'y engouffrer, ce qui serait une catastrophe. Les canicules se multiplient, les services d'urgence par ailleurs en grève en ce moment sont débordés en France. Et puis, en face de ça, il ne se passe rien. Silence radio chez les politiques qui, au mieux, se payent de mots. Silence radio aussi, on a l'impression, chez les intellectuels. Régis Debray, en dehors de quelques tribunes signées aux côtés de scientifiques, mais qui ne servent visiblement à rien. Et il vous semble impossible de penser ce qui est en train de se passer?
C'est parfaitement possible. Je dirais que vous ne perdez rien pour attendre. Je suis en train de méditer une petite réflexion pointue sur la sainte écologie. Alors c'est vrai que nous vivons un changement d'air, à tous les sens du mot, historique et atmosphérique, qui fait que vous et moi, nous sommes fatigués ce matin.
Vous me disiez, en arrivant, je n'ai pas dormi. La France entière n'a pas dormi, probablement, cette nuit. Il fait trop chaud. On voit les conséquences physiques.
Effectivement, le problème jusqu'ici, c'était l'histoire. Maintenant, c'est la géographie. Donc, je crois qu'il faut faire de l'histoire géo. Il ne faut pas séparer l'un de l'autre, si vous voulez. Il ne faut pas que le souci écologique est indispensable, nous fasse oublier en quoi consiste une société humaine et, je dirais, quel type d'homme peut-on faire, voilà. Mais c'est vrai que il faut penser à un basculement de civilisation en ce moment et c'est un beau chantier.
Est-ce qu'il n'est pas le temps que les intellectuels s'engagent plus peut-être physiquement d'ailleurs, au besoin, matériellement, comme vous l'avez fait, vous, Régis Debray, nous avons là une cause supérieure, peut-être une guerre qui est amenée, vous diriez ça?
Non, ne soyez pas apocalyptique. On a souvent annoncé l'apocalypse, et puis finalement on est encore là, depuis 3000 ans. On attendait le jugement dernier, on attendait l'arrivée des barbares, le péril jaune, les hackers russes, et l'invasion communiste, vous vous souvenez de tout ça? Non, bon. Donc, sachons raison garder. Cela dit, il est vrai que notre horizon a changé, qu'on est forcé de penser à une certaine communauté de destin autour de la planète. Mais il faut aussi savoir que la planète, c'est un peu large pour un individu, pour un être humain. Vous savez, un être humain a besoin d'une demeure. C'est pas un être raisonnable, c'est un être maisonnable. Et on peut pas se faire une maison de la planète, pour large pour nous. Donc voilà, il faut penser à la fois la planète et le chez-soi.
Alors l'Europe dans tout ça, tiens, ça c'est une maison un peu plus à notre mesure, j'allais dire. En même temps, c'est quand même quelque chose et un espace un peu trop grand. C'est à la fois trop grand pour les nations et trop petit pour peser sur les défis mondiaux.
Oui, c'est le problème de l'Europe et Valéry qui est un lanceur d'alerte incomparable, qui est sans doute le meilleur historien ou le meilleur géopoliticien français, peut-être européen, a remarquablement pensé ce qui arrive. C'est drôle qu'un homme qui est né en 1871 est le seul qui nous permette de comprendre ce qui se passe en 2019, n'est-ce pas? Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis frappé du fait que les politiques ne commencent pas par lire Paul Valéry. C'est pourquoi ils font beaucoup de conneries.
Ouais. Y a une panne idéologique, un peu plus largement, aujourd'hui, vous analysez ça comme ça? Parce que l'Europe semble à l'arrêt, Régis Debray, aujourd'hui, en tout cas au niveau de ses matrices intellectuelles.
Non, il y a un processus. C'est pas le premier. Disons que Valérie est passée d'un plus jamais ça, comme on en ressent à chaque conflit mondial, en 1919, en 1945. Il est donc passé d'un plus jamais ça à un tout ça pour ça, c'est-à-dire au constat d'un échec. Il a pensé cet échec. Il a d'abord été un formidable militant européen qui a sillonné toutes les capitales d'Europe avec l'idée de la fédération européenne. Et puis, il a peu à peu compris que ça ne se ferait pas. Et en 1945, il a eu ce mot étonnant, l'Europe est morte. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? L'Europe est morte en tant que cerveau du monde, c'est-à-dire en tant que centre nerveux de la planète. Il a compris que l'axe de la civilisation allait franchir l'Atlantique, avait franchi l'Atlantique, et que l'Europe de dominante allait devenir un dominion, ce qu'elle est aujourd'hui. Il a même dit, dire ça en 1938, c'est tout de même étonnant, l'Europe aspire visiblement à être gouvernée par une commission américaine. C'est-à-dire la commission de Bruxelles, qui, comme vous le savez, est une commission américaine. On y parle anglais, on y pense américain, et voilà, c'est arrivé. Il a eu aussi ce mot un peu pathétique, mais on est bien forcé d'y penser. L'Europe n'aura pas eu la politique de sa pensée. C'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a pensé l'Europe, que l'Europe est un objet de pensée. C'est pourquoi beaucoup d'intellectuels ont eu cette utopie, et tant mieux. Mais cet objet de pensée n'est jamais devenu un sujet vivant, n'est jamais devenu un centre d'initiative, n'est jamais devenu un corps. L'Europe n'a pas pris corps, si vous voulez. Donc, nous n'avons pas le sentiment d'appartenance, et donc chacun reprend ses billes, si vous voulez. C'est même frappant que Londres... Bon, vous allez me parler du Premier ministre britannique. C'est même frappant que... C'est à Londres, en 1949, que qu'a été signé le traité pour le Conseil de l'Europe. Et c'est à Rome, en 1957, qu'a été signé le traité de Rome. Eh ben, si vous voulez, ce sont deux capitales qui sont en train de prendre la poudre d'escampette. Donc, il y a une sorte de déconstruction en cours. Mais encore une fois, il faut lire le texte de Valéry, fondamental, que... j'espère que M. Macron ne l'ignore pas, et son ministre des Affaires étrangères encore moins. Je suis persuadé d'ailleurs qu'ils sont en train de lire mon petit livre, parce que c'est évident que pour se débrouiller aujourd'hui, on ne peut pas se débrouiller.
Un été avec Paul Valéry.
Mais grandeur et décadence de l'Europe, c'est tout de même extraordinaire ce titre, n'est-ce pas ?
Lui, il la voyait méditerranéenne, l'Europe.
Alors oui, c'est
méditerranéo-centrée,
vrai, ouais.
Et il la voyait parlant français, ou en tout cas pensée en français. Aujourd'hui, vous nous dites, elle se pense du coup en anglais, ce qui change évidemment tout.
Bah, surtout, Valéry pensait à une Europe politique et culturelle. Et pour lui, c'était la Méditerranée. Et c'est un fait qu'aujourd'hui, les centres de décision de l'Europe ont tous glissé vers le nord. Hein. La Méditerranée, c'est le Club Med, comme on dit à Francfort. Bon, et il est vrai qu'aujourd'hui, où les choses se décident, elles se décident à Strasbourg, au Luxembourg, à Francfort... à Berlin, donc Valéry ne s'y reconnaîtrait pas. Mais surtout pour Valéry, l'économie, c'était l'intendance. C'est-à-dire que le projet européen, pour lui, était un projet politique. Et aujourd'hui, on voit bien que la politique a été escamotée, subordonnée à l'économique. Et c'est bien là, je dirais, le vice dans l'ADN même de l'Europe qui a été... C'est une naïveté d'économiste qui a pensé que, en faisant une économie commune, on allait faire un peuple. Mais on fait pas un peuple avec une monnaie. Surtout quand la monnaie est un euro où il n'y a aucune image de personne, aucun lieu.
Enfin, il y a bref. Des ponts et des monuments sur les billets.
Oui, mais des monuments dont on ne sait pas lesquels. Des piliers, on ne sait pas sur quel sol ils sont posés. Si vous comparez le billet de Monopoly qui est un euro avec le billet d'Anse qui est un dollar, où vous avez une histoire, une géographie des personnages, des devises en latin. C'est même curieux que dans un pays d'ingénieurs, ce soit eux qui citent Virgile tout de même. Bon, ben nous, on n'a pas d'histoire. C'est même étonnant à quel point les députés européens, les représentants de l'Europe ne savent même pas pourquoi il y a 12 étoiles sur leur drapeau ?
Alors vous dites que l'européisme est un culte marial et vous revenez justement sur cette histoire du drapeau qui est oubliée, qui a quand même fait l'objet, Régis Debray, d'une polémique récente qui a été emmenée par les députés de la France Insoumise au moment où ils ont cru découvrir ce drapeau était effectivement d'origine religieuse.
C'est-à-dire le drapeau a été inventé par un catholique fondamentaliste, Monsieur Hals, à Strasbourg, sur la base d'une médaille miraculeuse des sœurs de Saint-Vincent de Paul. Et d'où viennent les 12 étoiles? Quand vous demandez à un député européen pourquoi vous êtes 27, vous n'avez que 12 étoiles, et quand vous étiez 6, vous aviez encore 12 étoiles, il n'a pas lu l'Apocalypse de Saint Jean. Et le bleu est marial. Pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse de Saint Jean, avant la descente de la Jérusalem céleste, il y a l'apparition de la Vierge, entourée de 12 étoiles. Et c'est ça le drapeau européen, n'est-ce pas? C'est un fait, c'est pas une interprétation, n'est-ce pas? Cette Europe ne veut pas d'histoire. Elle ne veut pas avoir d'histoire. Mais c'est normal. Un économiste, il s'en fout de l'histoire. Et un banquier, encore plus. Monsieur Jean Monnet était un analphabète en histoire.
Comment réactiver ce processus de pensée, Régis Debray? Dans un tract publié chez Gallimard dans la collection Tract, vous écrivez « L'homme est en l'être qui ne peut se faire à l'idée d'être ce qu'il est. Ce sont les inspirés, les inventeurs d'un sésame ouvre-toi qui portent aux plus vaillantes initiatives et non pas les arpenteurs géomètres lamentablement exacts. » Où sont les inventeurs du sésame ouvre-toi aujourd'hui, en Europe et pour l'Europe?
Vous savez, pour faire une Europe, il faut trois choses. Il faut d'abord un ennemi. Si vous n'avez pas d'ennemi...
Elle s'est construite dans l'adversité. Vous disiez tout à l'heure, Paul Valéry est né en 71, il est mort en 45, il a connu 14-18 évidemment, de très près. Elle s'est construite dans l'adversité aujourd'hui, c'est ce qui manque.
L'Europe, elle s'est construite au départ contre Staline. Elle a voulu faire bloc contre un bloc, soviétique en l'occurrence. Nous ne vivons plus l'heure des blocs. Mais je dirais peut-être que l'Europe est le dernier bloc actuellement. Mais, si vous voulez, un ennemi, donc, des frontières, et je dirais une transcendance, c'est-à-dire un idéal partagé qui permette de faire converger les différents intérêts nationaux. Sur ces trois points, malheureusement... On peut voir une absence, donc ce délitement, cette déconstruction que Valéry avait perçue, n'est-ce pas? C'est tout de même étonnant. Il avait même dit que l'Europe n'a plus d'histoire, elle s'en est déchargée sur d'autres, il voulait dire sur les États-Unis, et ce sont des pays sans histoire qui vont nous transmettre leur idée du bonheur. C'est-à-dire que effectivement. Il s'est passé ceci, si vous voulez. C'est que l'Europe était une civilisation. C'est-à-dire, une civilisation, c'est une projection d'images, d'idées, de valeurs sur les autres. C'est en quoi Valéry disait, au fond, l'Europe a été le cerveau du monde. C'est de là d'où partaient les normes de conduite, les philosophies, les politiques, etc. Et il a vraiment défini ce que c'est une civilisation. C'est pourquoi il faut vraiment lire et relire Valéry. C'est que une civilisation dominante, c'est celle qui unit avec le plus d'intensité une capacité d'absorption et une capacité d'émission. La force des États-Unis, c'est d'avoir reçu, si vous voulez, des diasporas, des idées, des scientifiques.
Jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Des scientifiques, y compris Monsieur Van Braun, n'est-ce pas, un nazi célèbre. Enfin, il a tout de même... permis aux États-Unis de planter le drapeau sur la... Donc, il faut à la fois recevoir et émettre, c'est-à-dire absorber et diffuser. Et ça, effectivement, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, Valéry avait compris qu'au fond, l'Europe ne serait plus qu'une culture, c'est-à-dire un folklore, avec un patrimoine, et nous essayons de sauvegarder le patrimoine. Nous sommes le pays des musées... des cathédrales, des conservatoires. Mais le laboratoire, il n'est plus chez nous. Voilà, au fond, ce que Valéry a perçu avec une acuité incroyable, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et si vous voulez, quand vous regardez les mémoires de Daniel Cordier, hein, bon, le secrétaire de Jean Moulin, et que Cordier vous raconte, Jean Moulin vient le voir à Lyon dans sa chambre et il voit les œuvres de Valéry et il dit « Cet homme a compris tout ce que nous subissons en ce moment. » C'est pourquoi Jean Moulin voulait faire de Valéry le président de la République après la libération, n'est-ce pas ? Ce qui montre à quel point...
C'est peu, mais que vous rappelez effectivement dans votre ouvrage, un été avec Valéry.
Oui, c'est-à-dire que je crois que c'est en 42, 43, il évoque quel peut être le futur de la France et il dit... nous n'aurions pas de meilleur président. Il veut dire, bien sûr, au sens président de la République, de la troisième, hein, bien entendu, que le général de Gaulle eût été premier ministre. Mais c'est vous dire le prestige de Valéry à cette époque, à la fois en tant que poète, en tant que philosophe, et je dirais en tant que devin, parce que Valéry est divinatoire, n'est-ce pas ? C'est ça ce qui me frappe le plus.
Alors, il s'est quand même planté sur l'avènement du nazisme. Alors, vous le rappelez aussi, ça, Régis Debray, il y a eu là, peut-être c'est le seul, mais il y a eu un exemple d'absence de vision ou d'absence
et pourtant,
de sens
et pourtant, de l'histoire. Et pourtant, il y a un texte de lui fondamental qui s'appelle « La conquête méthodique », où il raconte... la personnalité allemande, et où nous sommes avant la guerre de 14, il indique aux Anglais, car Valéry est un patriote cosmopolite, il est en Angleterre, et il dit aux Anglais, attention, vous allez faire la guerre avec l'Allemagne. Et il fait une analyse, je dirais, de la méthode hégémonique de l'Allemagne, fondée sur le sens de l'organisation, la cohésion collective, le calcul, et vous pouvez lire ce texte qui date de 1897 et vous l'appliquez à l'Allemagne d'aujourd'hui et vous avez une sorte de radiographie de l'Allemagne et tous ceux qui parlent, je dirais, du coup franco-allemand qui est devenu une fumisterie devraient lire cela parce que au fond les peuples ont une personnalité, voilà. Et que Valéry les perçut en disant « Attendez, ils seront la puissance militaire dominante et ils seront la puissance économique dominante parce qu'ils abordent la guerre et la guerre économique avec la même méthode. » Extraordinaire. Si l'Europe aujourd'hui est allemande, Valéry aurait pu vous expliquer pourquoi.
Deux choses menacent le monde, l'ordre et le désordre, expliqué aussi Paul Valéry, et vous le citez dans l'ouvrage que vous lui consacrez aux éditions des Équateurs parallèles, dans une chronique précisément, qui pose la question de savoir si Valéry est bon ou s'il est méchant. Autrement posé, c'est s'il est de gauche ou s'il est de droite.
Oui, j'ai envie de dire qu'il était les deux à la fois, mais il était au-dessus de ça, c'est-à-dire au fond... Oui, on peut dire un homme de droite parce qu'assez pessimiste, donc lucide. Ce qui est formidable chez Valéry, c'est que comme il n'a pas de projet de société, il regarde les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est-à-dire qu'il ne les subordonne pas à une idéologie, donc il est d'une acuité, c'est comme un radiographe, hein. Il perçoit 20 ans avant ce qui va se passer. C'est aussi un homme de gauche parce qu'il croit dans la raison, il croit dans la possibilité, je dirais, d'unifier les hommes par la science et la conscience. Il a tout de même donné la seule définition de l'Europe qui vaille, à savoir la réunion de trois choses, la science grecque, donc l'universel, l'héritage romain, donc le droit, et... le christianisme, donc la personne. Hein. Et il dit, il y a de l'Europe là où il y a ces trois choses ensemble, si vous voulez. Bon, bah, je trouve qu'on n'a jamais donné une meilleure définition. Et pour lui, trois choses ensemble, ça pouvait être aussi bien Alger qu'à Tunis. Hein. Non, vraiment, ce géopoliticien me semble prémonitoire. Alors pourquoi a-t-il été oublié ? Ça, c'est un vrai problème. On l'a un peu congelé, si vous voulez. Moi, je vais essayer de le décongeler, de le sortir du frigidaire académique. C'est vrai qu'il n'a pas eu une œuvre synthétique, si vous voulez. Il est un peu comme Pascal, c'est-à-dire il y a énormément de choses. Et puis, c'est un emmerdeur. Hein. Il est tout de même très... Il est vexant pour beaucoup d'illusions. Il sait à la fois que toute société a besoin de fiction, hein, En ce sens que l'illusion est motrice, mais enfin, ils définissent ce que c'est qu'une illusion. Ils en donnent à peu près la même définition que Freud. Il y a une croyance devient une illusion quand elle est fondée sur le désir sans tenir compte de la réalité. C'est l'Europe. Nous avons tous un désir d'Europe. Nous sommes tous en mal d'Europe, mais l'Europe nous fait mal, si vous voulez, hein, parce que le résultat n'est pas à la hauteur du désir que nous en avons. Et je crois que ce désir, il va survivre. Mais je crois qu'il va se donner, à un moment donné, d'autres bases qui ne seront plus la banque ou la monnaie. Pour le moment, moi, je vois un cercle vicieux un peu dommageable entre, d'un côté, une sorte de fondamentalisme de la finance qui produit nécessairement son contrepoint ou son opposé, que je dirais peut-être un fanatisme de la différence, si vous voulez, c'est-à-dire à la fois au fond c'est un cercle vicieux. Vous avez d'un côté un néolibéralisme qui s'installe par des moyens qui ne sont pas vraiment démocratiques, hein, bon. Et puis de l'autre, vous avez des démocraties illibérales, hein, et tout ça fait un cercle vicieux.
On va continuer cette discussion et cet entretien, Régis Debray, après le journal de 8 heures, si vous le voulez bien. Nous écouterons également Alistair Campbell, qui était porte-parole de Tony Blair dans les années 2000 et qui nous a accordé un entretien à propos, vous l'avez vu venir, hein, de Boris Johnson et de son accession au 10 Downing Street hier. On va en parler.
Il ne doit pas être très favorable, j'imagine.
On va voir ça après le journal. Il est 8h sur France Culture.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Avec notre invité Régis Debray, nous évoquons la figure de l'Européen Paul Valéry. Paul Valéry qui fait l'objet de cet ouvrage, Régis Debray, Un été avec Paul Valéry, publié aux Équateurs parallèles avec France Inter. C'est un recueil de chroniques que vous avez consacré l'été dernier sur France Inter à Paul Valéry. On va évidemment continuer cette discussion sur ce que peut aujourd'hui, vous nous l'avez dit tout à l'heure, amener Paul Valéry et sa pensée et sa vision de l'Europe aux responsables politiques actuels de l'Europe. Vous nous disiez que s'il lisait Paul Valéry, peut-être ferait-il moins de conneries. Je vous cite tout à l'heure, mais on va écouter quelqu'un qui connaît bien la politique européenne et l'actualité, vous le savez, est dominée par l'arrivée de Boris Johnson au pouvoir. Il est devenu Premier ministre hier, Premier ministre britannique à la succession de Theresa May. Ça inquiète évidemment beaucoup en Europe et pas uniquement par rapport au Brexit, puisque les choses semblent bien fixées maintenant. Brexit, il y aura de toute façon, accord ou pas accord, au moins à fin octobre. On va écouter, si vous le voulez bien, le journaliste et écrivain Alistair Campbell, ancien porte-parole du travailliste Tony Blair. Dans une tribune qu'il publie dans le magazine GQ, il explique que l'avènement de Johnson a été rendu possible en quelque sorte par un vide idéologique.
Ce qui l'intéresse, c'est son profil. Ce qui l'intéresse, c'est le prochain titre. Ce qui l'intéresse, c'est la prochaine photo. Il fait pas de détails. Là, quand il était ministre des Affaires étrangères, les diplomates qui sont là au Foreign Office, le Quai d'Orsay, si vous voulez, britannique, ils ont fait la fête quand il est parti. Et là, maintenant, de trouver pour le service public, il est là maintenant, plus responsable à Downing Street. Je peux pas décrire la tristesse que je sens.
Boris Johnson, écrivez-vous dans cette tribune sur GQ, ressemble beaucoup à Trump. D'ailleurs, les deux hommes semblent se reconnaître mutuellement et l'arrivée du nouveau pensionnaire du 10 Downing Street est le signe, d'après vous, d'une dérive fascisante en Europe. Expliquez-nous.
Je ne dis pas qu'il est fasciste, je ne dis pas que Trump devrait être comparé, si vous voulez, aux dictateurs et démagogues de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut faire attention qu'il y a tant de signes dans notre monde, dans notre politique à ce moment. Il y a trop de signes qui devraient nous faire penser aux années 30. Je suis en train de lire un livre d'un journaliste américain, William H. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich. Et c'est un livre vraiment qui mérite de relire, puisque c'est effrayant de voir presque sur chaque page des résonances de ce qui se passe maintenant et ce qui se passe pendant les années 30. Et c'est pour ça, à mon avis, par exemple, que je crois que c'est très important que président Macron réussisse, que ces leaders qui essaient, au moins ils essaient de dire la vérité au peuple. Tandis que Johnson, Trump, Poutine, Erdogan, Bolsonaro au Brésil, il y a tous ces leaders qui font la politique d'une manière totalement nouvelle. C'est le populisme. Et le populisme, pour moi, ça ne va pas dire qu'ils font des choses pour être populaires. C'est la relégation de la vérité au mensonge. Et c'est dangereux. Il faut vraiment faire attention.
Alors, il n'y a pas de projet génocidaire en germe, aucune volonté d'asservir aucun peuple. Mais vous dites qu'il ne faut pas voir forcément comment finit le fascisme, quelle est l'évolution au bout du phénomène, plutôt comment il commence.
Alors, par exemple, les attaques, surtout de Trump, mais ça commence chez nous aussi, l'attaque sur la liberté de la presse. Chez nous, après le référendum, quand la Cour, les juges ont décidé que contrairement au désir de ceux qui ont les politiques qui voulaient le Brexit, la Cour suprême a annoncé qu'il leur a fallu mettre toutes leurs propositions devant le Parlement. Et quand ils ont annoncé, des politiciens pour le Brexit, ils se sont servis d'une phrase qui a été servie par Hitler, par Goebbels, par tous ces autres. C'était des ennemis du peuple. Et les juges étaient les ennemis du peuple. Alors ça, c'est un signe. Attaquer les juges, attaquer les journalistes, attaquer ceux qui ne sont pas en accord avec Trump, par exemple, ce ne sont pas des critiques, ce ne sont pas des opposants, ce sont des ennemis, ce sont ce sont des menteurs, ce sont des traîtres.
Alors, Alistair Campbell, donc, qui répondait à nos questions depuis l'Australie, ce qui explique cet entretien enregistré, Régis Debray nous explique, Alistair Campbell, le fascisme a pu advenir au XXe siècle sur une base idéologique. Aujourd'hui, il revient en quelque sorte par la fenêtre, en revanche, l'absence, un vide idéologique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pas du tout. Monsieur Campbell et Tony Blair sont les responsables directs de ce qui se passe aujourd'hui. Et ils reprennent l'antienne bien connue que nous connaissons en France contre les fascistes votés banquiers. Tony Blair a, je dirais, dérégulé, subverti, inverti la gauche en promouvant la privatisation des services publics, la dérégulation de l'économie, le désengagement de l'État, enfin bref, la levée des protections sociales. Et c'est pas du tout une absence d'idéologie, c'était une idéologie, c'est celle du néolibéralisme, dont, je le répète, il est destructeur, mais il est aussi le fournisseur, par là même, des nationalismes les plus obtus. Donc, il est triste que de voir aujourd'hui effectivement la montée de ces populismes. Et quand vous méprisez le peuple, vous avez en retour, en boomerang, le populisme. Ce que ce monsieur, qui a été l'idéologue de ce qu'on appelle en Angleterre le toutou de Bush, parce qu'il a poussé, accompagné les États-Unis dans cette opération brillante, n'est-ce pas, qui a consisté à envahir l'Irak, donc
en 2003.
À nourrir le terrorisme, finalement. Ces gens sont incapables de faire leur autocritique, n'est-ce pas? Alors, il y a ça. D'abord, on revient à ce cercle vicieux. Alors évidemment, quand vous parlez de fascisme, tout le monde est contre. Je rappelle que le fascisme, ça transforme une nation en caserne, ça ouvre des camps, ça met un uniforme à la jeunesse. C'est pas exactement.
Et quand il dit que le début du fascisme, c'est la défiance envers les élites, c'est la défiance envers les journalistes, c'est la défiance envers la justice, ces signes-là, il les retrouve aujourd'hui chez Trump ou dans le processus qui a conduit à l'arrivée de Johnson au pouvoir. Non, ce constat-là, vous le partagez pas?
Ah, si. Non, mais évidemment qu'il y a des il y a des indices, je dirais, on ne peut plus fâcheux. Ce monsieur oublie de dire tout de même qu'il y a eu la télévision, c'est-à-dire un changement, si vous voulez, un changement dans la façon de convaincre les gens avec des slogans, avec que non plus des discours argumentés, mais de l'émotionnel et du flash. Et donc tout ça engendre effectivement un recul du rationnel, une montée de l'émotionnel. Ça, c'est vrai que dans la vidéosphère, la politique à l'ancienne est un peu fichue et qu'on arrive à une régression, si vous voulez, je dirais, vers ce qu'il y a de plus primitif, ce qu'il y a de moins élaboré. Donc effectivement, ce sont des processus inconscients. Je crois qu'il faut tout de même considérer un peu de technologie, là. Il y a tout de même et puis tout de même ce premier ministre, ce nouveau premier ministre britannique,
Boris Johnson,
il a fait du latin, il a fait du grec, il a été éduqué à Oxford, il parle français, il parle beaucoup de langues, ça a pas l'air d'un idiot. Un peu folle dingue, ça c'est l'excentricité britannique, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a des symptômes alarmants.
Quand on lui oppose
mais
le fait de ne pas avoir d'idéologie
politique. Qu'on ne fasse
politique.
Pas le coup du fascisme, parce que on vous fait le coup du fascisme et on vous demande de voter banquier. Mais c'est le banquier qui fait le fascisme. Enfin, non, il faut sortir tout de même de ce...
Quand on explique de Boris Johnson qu'il n'a pas d'idéologie. Ça, c'est vrai. On ne sait pas si. Il a son idéologie aujourd'hui
plutôt,
de Premier ministre, mais quand il était ministre des Affaires étrangères, c'était un autre. Quand il était maire de Londres, c'était un autre. C'est un symptôme aussi de l'Europe aujourd'hui.
C'est un opportuniste, bien entendu. C'est un cynique, etc. Enfin, c'est plutôt bien qu'il n'ait pas d'idéologie, parce que les fascistes en avaient une, je vous signale. Ils avaient une vue à long terme. Ils avaient une théorie de la race, de la force. Je ne vois pas tout ça chez ce type qui, au fond, est comme à peu près la plupart des dirigeants d'aujourd'hui, c'est des enfants de la télé. Hein. Bon, voilà. Comme Trump, comme cet Ukrainien là dont on parle. Si vous vous rendez populaire en faisant le clown à la télé, vous avez effectivement beaucoup de gens qui vous suivent et qui ne réfléchissent pas. Ça, c'est un peu le drame, si vous voulez, de la vidéosphère, on peut dire, c'est-à-dire du simplisme, du démagogique. Tout ça est vrai. Mais que ce monsieur Campbell n'ait aucun retour sur ce qu'il a fait au gouvernement britannique, c'est-à-dire la destruction de la gauche, hein, et qu'il s'étonne ensuite de ce boomerang qui est effectivement la remontée des conservateurs. Non, non, là, il faut tout de même, je dirais, avoir un peu plus de lucidité.
Alors, la destruction de la gauche.
On crut qu'on fait un peuple avec une monnaie, mais c'est pas vrai, ouais, monsieur.
Ouais, vous l'avez dit déjà. Mais cette destruction de la gauche, elle n'est pas due qu'à Tony Blair.
Non, bien sûr. Debray.
La destruction de la gauche, on la constate partout aujourd'hui.
Partout. C'est...
Ça, c'est bien un recul aussi des idéologies.
Ah, mais je suis bien d'accord. Tout ça est à reprendre. Hein. Il faut envisager une refondation, mais il n'y aura pas de refondation s'il n'y a pas un minimum d'autocritique et de lucidité, si vous voulez. Bon. C'est vrai que ce qu'on appelle la gauche de gouvernement a perdu ses repères, a été absorbée parce qu'elle a cru être la modernisation, qui n'est souvent que l'américanisation des sociétés. Elle a oublié la lutte des classes, qui est tout de même un peu embêtant quand on est de gauche. Hein, je trouve que elle a oublié qu'il y a des pauvres et des riches. Elle a oublié que qu'une Europe comptable, hein, une Europe de comptables où les hommes d'affaires sont aux commandes, eh ben, ça a des effets, si vous voulez, fâcheux. C'est-à-dire que, contre la loi du fric, les gens peuvent dire que la loi du knout peut être, je dirais, la guérison. Ça ne fait qu'aggraver le mal, hein, on est bien d'accord. Mais il faudrait sortir de ce cercle vicieux, si vous voulez. Non, là, vraiment... Enfin bref, écoutez, moi je me fiche un peu de tout ça, je fais pas de politique, je suis pas un sociologue.
Vous êtes venu parler
de Paul Valéry. De Valéry, qui me semble être aujourd'hui un phare.
Et qui peut reconstituer, voilà, qui peut donner une base pour comprendre.
Arrive, parce que cet homme a eu cette chose un peu, ces mots, il a dit, il faut se déprendre du monde pour comprendre le monde. C'est-à-dire, il faut prendre du recul sur l'actualité. Hein. Bon. Et c'est un homme qui a pris du recul sur notre histoire et qui a compris notre histoire en nous. D'abord, en retrouvant l'ADN de l'Europe, de la véritable Europe, hein, pas de l'anti-Europe qui est l'Union Européenne d'aujourd'hui.
De ce fantôme que vous décrivez.
Il a eu conscience, il a eu une vision globale. Et aujourd'hui, effectivement, le monde est globalisé dans son extension, mais il est nationalisé dans sa composition. Ça, c'est très difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'au fond, il se modernise et il s'archaïse du même coup, n'est-ce pas? Et donc, on risque d'en revenir, mais est-ce un risque? Au concert des nations. Et un jour, peut-être que, hélas, je le regrette, parce que qui n'aurait voulu avoir une Europe puissante, prospère, pacifique? Mais hélas, ça risque de se décomposer. C'est en train de se décomposer. C'est pas, je ne m'en réjouis pas, hein. C'est pas glorieux. J'essaye de comprendre pourquoi.
Paul Valéry a été le fondateur du Comité permanent des lettres et des arts créé à Genève en 1922. Alors, vous rappelez ça aussi dans
il
ce
a
livre.
Créé la
ça, c'est extrêmement intéressant.
Il a créé la Société des Esprits. Au fond, il n'y a jamais eu autant d'Europe, si vous voulez, qu'entre 1920 et 1939, où il y avait une circulation des intellectuels, des esprits, où il y avait, par exemple, un dialogue entre Freud et Einstein. C'est pas rien. C'est Valéry qui l'a organisé, ce dialogue. C'est Valéry qui a accueilli aussi bien Salvador de Madariaga, Hoffmann, Stahl, Rilke. Enfin, il y a eu une Europe là, il y a eu une Europe des esprits. L'idée de Valéry était que les hommes de l'esprit pouvaient influer sur les hommes de la décision, sur les hommes de gouvernement. Ça n'a pas marché. Bon, et il s'en est rendu compte à la fin. Mais tout de même, il y a une grandeur de l'Europe des esprits qu'il faudrait retrouver aujourd'hui, hein. Imaginez qu'à Arte, par exemple, on fasse des rencontres entre intellectuels allemands et intellectuels français. Ce serait formidable. Je crains simplement que les deux se mettent à parler un mauvais anglais, ce qui ne serait pas très bon pour l'échange, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il faudrait essayer de retrouver, je dirais, cette connexion, cette circulation des élites, pour le coup, oui, bien sûr, des élites, mais des élites scientifiques, des élites artistiques. Pas seulement des élites bancaires ou financières, vous me comprenez.
Et voilà en quoi Paul Valéry peut nous indiquer une voie.
Il est
Merci
même
beaucoup.
Fondamental.
Merci beaucoup Régis Debray d'être venu nous présenter ce matin cet ouvrage Un été avec Paul Valéry aux éditions Équateur Parallèle.